dans la chaîne alimentaire, mais aussi faire comprendre comment l'être humain a altéré certains équilibres. Voilà l'objectif de cet atelier. Noan Lebesco du consortium scientifique Plankton Planet.
Le fait de leur montrer que dans l'eau, on trouve évidemment des choses vivantes, mais on y trouve aussi par exemple des micro.
Radio G, 101.5 FM.
Impromptu littéraire. Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début des 20e siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Les bourreaux et victimes en mêlent leur récit »
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire sous-jacente.
Je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Les textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer la lecture de La patience des traces de Jeanne Benhamer. Psychanalyste, Simon a fait profession d'écouter les autres au risque de faire taire sa propre histoire. À la faveur d'une brèche dans le quotidien, à bol cassé, vient le temps du rendez-vous avec lui-même. Il lui faudra quitter sa ville au bord de l'océan et l'île des émotions intenses de sa jeunesse. S'éloigner du trio tragiquement éclaté qui hante son ciel depuis si longtemps. Aussi laisser derrière lui les vies, les dérives intimes si patiemment écoutées dans le secret de son cabinet. Ce sera un Japon inconnu, un autre rivage. Et sur les îles subtropicales de Yaeyama, avec les très sages et très vifs monsieur et madame Ito, la naissance d'une nouvelle géométrie amicale, une confiance, à l'autre bout du monde et au-delà du langage. Simon fait l'expérience sensible, la rencontre avec soi passe par la rencontre avec l'autre.
La patience des traces, roman paru chez Actes Sud en janvier 2022. Jeanne Benhamer, romancière et poète, est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment Profane en 2013, Grand Prix du roman RTL, Lire, Otage intime 2016, Prix des libraires en scène, et plus récemment, Ceux qui partent, Prix des lecteurs de Corse 2020. Elle est l'auteur de textes poétiques comme L'exil n'a pas d'ombre, prix de poésie Vénus Curie Gatta en 2019, livre que nous avons eu le plaisir de vous lire dans cette émission.
«
dettes de pochoir, on met en réserve le tissu, puis on le peint avec des pinceaux très fins et des pigments minéraux des îles Okinawa. Akiko ajoute que c'est une tradition très ancienne qui date d'avant l'annexion du royaume de Ryukyu par le Japon. Avant, toutes les petites îles et la nôtre aussi formaient un royaume, un vrai royaume. Simon se représente le maniement des pochoirs faits à l'ancienne en pâte de riz, le travail de réserve. Il faut cacher pour révéler ensuite. Il songe. Pochoir et peinture, les couleurs si vives qu'il n'attendait pas. Akiko parle de l'Inde comme lointaine origine peut-être du Mengata. Mais on ne sait pas. Simon écoute et se laisse dériver. Comme on doit avoir la tête libre quand on passe des heures à un tel travail. Il revoit les gestes de Desuki dans l'atelier. Ces fragments de tissu sont mes trésors, mon cher Simon. Je n'ai jamais pu retrouver un kimono entier malgré toutes mes recherches. Je ne désespère pas, même si de toute façon, ce serait trop cher pour moi. Je ne suis qu'une petite collectionneuse. La voix d'Akiko lui parvient, mais les fragments l'entraînent. Un en particulier. Il n'ose pas le toucher, mais elle a suivi son regard et l'invite à oser. Il est ému par la gaieté des mouvements peints sur le tissu, des vagues turquoises, des arbres un peu penchés. C'est un crève-cœur de penser soudain. Ce serait pour Louise, ça. Elle qui s'entourait d'étoffes au ton chaud, de jupes longues qui volaient au vent de l'île. Mon Dieu, comme il aurait pu être heureux avec elle, si seulement. C'est d'elle seule qu'il aurait pu avoir des enfants. Il l'aimait si fort. Pourquoi n'a-t-il pas été capable de pardonner? Il entend encore Mathieu lui crier. Mais acceptez, Simon, acceptez, tu ne peux pas. Sans pardonner, pardonner, on s'en fout. Tu te prends pour qui? Tu veux comprendre, toujours tout comprendre, mais on s'en fout aussi de comprendre. Accepter, juste accepter, merde. C'était sur une plage sous le ciel très bleu de là-bas. Et lui, non. Non, je te dis, plutôt crever, fous le camp, Mathieu, je ne veux plus te voir, fous le camp. Plutôt crever, tu m'entends? Il avait survécu. C'est Mathieu qui était mort. Et Louise perdue. Akiko est allée à un petit meuble bas. Elle en sort une carafe en terre et deux bols. Ici, on boit cet alcool. Il est fait maison, dit-elle, par des amis. On ne le trouve dans aucun commerce. Il se laisse traverser par l'alcool, un goût amer au fond du palais. Il faut s'y faire, ajoute Akiko. Après, on finit par aimer. Il lui parle de son goût pour certains whisky. Il aime l'amertume, puis il se taise. Au bout d'un moment, elle se lève, va chercher une pièce de tissu qu'elle pose sur la petite table entre eux. C'est mon premier vrai achat de collectionneuse. Elle le déplie avec soin. Sans doute devait-il servir à faire un kimono. Mais voilà, il n'a pas été coupé, ni cousu. Il est resté des années en attente. Et il m'emmène toujours aussi loin quand je le contemple. Elle baisse la voix. Dans tout ce qui n'a pas été fait, il est beau. Simon boit à nouveau une gorgée de l'alcool dans tout ce qui n'a pas été fait.
Il écrit dans son carnet sur la plage à l'ombre des arbres. Il lui faut le regard sur l'eau, loin, pour pouvoir écrire ce qui vient. Nous n'avons pas tenu la promesse de l'enfance. Louise la douce intrépide, Mathieu et moi, aucun des trois. La mort de Mathieu nous a séparés bien mieux que le corps à corps qui m'a fait horreur entre eux. Pour moi, Mathieu n'aimait que les garçons. C'était clair depuis toujours. Il ne s'en cachait pas. Et je ne me suis jamais imaginé qu'il pouvait désirer le corps d'une femme. Dans ma tête, c'était réglé. Alors Louise, c'était impensable. Le sable blanc est brûlant. Je prends garde de ne pas y mettre le pied dans mes sandales. Même à l'ombre, il fait si chaud. J'ai envie de fraîcheur. Tout mon corps appelle l'océan qui nous saisissait enfant. Dès le mois d'avril, l'eau encore si froide, on y allait ensemble avec Louise, l'un défiant l'autre. Mathieu restait sur la plage. Vous êtes dingues tous les deux. Un jour, nous avions nagé avec Louise et quelque chose s'était passé. Nos regards qui s'accrochaient l'un à l'autre, le froid contre lequel nos corps luttaient ensemble. Nous n'étions pas restés longtemps dans l'eau. Juste le temps de nous réchauffer en nageant et nos limites étaient atteintes. Il faudrait se sécher et courir vite sur la plage en sortant. Mathieu nous attendait avec les serviettes. Nous étions près du rivage et là, soudain, Louise avait tendu son visage vers moi, ses lèvres, et mon cœur s'était arrêté de battre. Dans un état second, j'avais posé ma bouche sur la sienne, nos regards, et elle m'avait pris la main. Nous étions sortis de l'eau triomphants et fragiles. Oh, j'étais un roi. La serviette que Mathieu m'avait posée sur les épaules était un manteau d'hermine. Louise, ma secrète bien-aimée, avait voulu mon baiser. J'avais attrapé la serviette des mains de Mathieu sans le regarder et j'avais aidé Louise à se sécher. Mais très vite, elle avait repris son écart d'intrépide qui n'a besoin de rien. Elle pouvait toujours. Maintenant, je savais qu'elle aussi. J'écris mon bonheur d'alors, là, sur cette plage brûlante. Le froid ou la chaleur, c'est toujours une brûlure sur la peau. Les mots sont là. Pour la première fois, j'ose écrire ce bonheur-là. Oui, il existe toujours en moi, préservé. Et j'en pleurerai. Il est vivant. Je peux l'écrire. Mon immense bonheur silencieux. Mon cœur qui éclatait de joie. Et moi, abasourdi. Tout est là, intact. Tout ce que j'avais tellement espéré depuis des mois. Ce qui vient après, ce qui a détruit ce bonheur ne peut pas détruire ma mémoire. Ma joie d'alors bat encore entre mes côtes. Si je ferme les yeux, je le revois. Le visage de ma Louise dans son absolue confiance tournée vers moi. Cette image-là, elle est à moi pour toujours. Simon a fermé les yeux, puis il écrit à nouveau. Ma confiance à moi aussi est absolue. Mon cœur était une bravoure sans limite. J'ai connu ça, oui, j'ai connu ça. Il y a de longues plaintes tenues parfois longtemps dans nos poitrines. Un jour, elles trouvent le chemin et montent jusqu'à nos lèvres. Simon est seul, et il pourrait hurler sur cette plage, mais le son qui sort de sa bouche est bas, rauque. C'est un grondement de ceux qui annoncent les tremblements de terre ou les éruptions volcaniques. Un grondement souterrain qui soulève en vagues lourdes la souffrance trop longtemps muette. Il se lève et court à l'eau, et peu importe le sable blanc sur la plante de ses pieds, le contact de l'eau, il ne désire plus que ça. Il n'y a que l'eau pour ses larmes. Cette fois, la Raymonta est là, puissante et souple. Elle l'attendait. Il la suit comme on s'abonnerait à un présage. Elle a détecté sa présence, il en est sûr. Et elle le laisse faire. Il ne pense plus à rien. Il la suit jusqu'au coraux. Alors, par des mouvements d'une grâce infinie, elle se défait entre les coraux de tout ce qui s'est accroché à elle. Combien de temps, Simon, reste-t-il ainsi observer ce qu'elle lui montre? Reprenant son souffle hors de l'eau, puis replongeant. Quand elle repart, délivrée de ce qui entravait ses mouvements, il la remercie silencieusement. Il se laisse flotter longtemps sur le dos, fixer dans sa mémoire ce qui vient d'arriver. Garder en lui ces images pour les jours où il ne saura plus se défaire de tout ce qui entrave.
Les mots disent ce qu'ils ont à dire, et c'est tout. Il s'y est fié toutes ces années, une protection qui a bien joué sa mission. L'armée des mots tout autour de lui, même quand il était seul. L'armée des mots dans sa tête, prête à attaquer pièce à pièce les sombres ombres, comme il les appelait en son fort intérieur. Depuis quand l'armée des mots? Depuis les morts ou bien avant? Il ne sait plus. L'armée des mots s'est renforcée après la mort de Mathieu, oui, mais elle était déjà là avant. Depuis quand? Simon soupire, sans les mots. Depuis qu'il a laissé tomber le bol, il a laissé échapper quelque chose. Chaque matin, dans ce bol, il buvait le premier café, puis il le lavait soigneusement à l'évier de la cuisine. Le bol vide, séché, attendait le matin suivant. Et toutes les paroles qui n'avaient jamais atteintes attendaient aussi.
Il n'a pas vu Desouké qui s'est approché. Le vieil homme lui pose une main sur l'épaule. Simon lève la tête. Il tient toujours la pierre blanche dans sa main. Il a le regard perdu. Le vieil homme lui fait signe de le suivre et Simon le suit. Que quelqu'un lui dise quoi faire en ce moment précis, c'est une bénédiction. Lui, il ne sait plus. Il aurait pu rester des heures à murmurer tout seul, la pierre dans la main. Les paroles ne sont plus contenues nulle part. Elles sont là. Les ouquets l'emmènent sur le chemin qu'ils avaient emprunté lors de leur première visite. Cette fois, il va jusqu'au pavillon, ouvre la porte en bois. Il fait signe à Simon de venir, s'écarte pour le laisser entrer. Il fait un peu sombre à l'intérieur. Et d'abord, Simon ne voit pas grand-chose. Puis, il distingue des étagères qui font le tour de la petite pièce. Et des formes, à distance régulière les unes des autres, sur les étagères. Des pièces de céramique aux couleurs d'abord imprécises, puis qui se libère au fur et à mesure que son regard retrouve de l'acuité malgré l'obscurité, des bleus, des bruns. Mais bientôt, ce à quoi son regard s'attache, ce sont de minces sillons qui brillent. La céramique est soulignée de lignes d'or, comme la tasse offerte par Akiko. Desouké s'est planté au centre du pavillon. Il montre d'un geste large du bras ce qui l'entoure, puis il invite Simon en le poussant légèrement dans le dos à s'approcher des étagères. Lui s'est accroupi sur le sol, dans cette posture que Simon appelle intérieurement celle des gens sans chaise, cuisses fléchies, avant-bras reposant sur les genoux, détendu, au repos. Pourquoi a-t-il si peur d'être maladroit? Faire un faux pas? Casser à nouveau? Il se sent lourd dans cette atmosphère où rien ne pèse. Et pourtant, sa main se tend. Le sourire de Desouké l'encourage. Simon ose alors prendre une coupe à l'aspect rudimentaire. Il suit la ligne d'or qui relie deux bords opposés, comme si la coupe avait été brisée en son milieu. Desouké fait le geste de tenir la coupe entre les mains, puis il écarte les mains soudainement et Simon revoit le bol brisé dans sa cuisine. Il repose précautionneusement la coupe et continue sa ronde. Chaque objet ici est couturé de lignes d'or. Elle dessine des courbes, des zébrures, parfois juste quelques points comme si on avait cousu les bords ouverts d'une blessure. Et c'est beau, étrangement beau. Les tissus cousus, la céramique cousue, et lui, la bouche cousue, ou le fil d'or? Desouké parle à sa façon lente, entre chaque phrase un temps. Le silence dans lequel Simon marche a pas compté. S'il comprenait ce que dit Desouké, il saurait que tout se répare. On ne cherche pas à cacher la réparation. Au contraire, on la recouvre de lacs d'or. On est heureux de redonner vie à ce qui était voué à l'anéantissement. On marque l'empreinte de la brisure, on la montre. C'est la nouvelle vie qui commence. Simon entend les silences de tous les gens qu'il a reçus dans son cabinet. Entre les paroles énoncées distinctement par Desouké, il entend maintenant son propre silence. Il comprend qu'il est venu à la rencontre de ce silence jusqu'ici. Pas de parole sans silence, jamais. Il est venu le chercher et il en a peur. Quelque chose s'éveille et il en a peur. Le silence doit être bordé de paroles justes. Alors seulement il est habitable.
Dans la pièce au tissu, Akiko a ouvert un coffre bas, en bois lisse, foncé, sans aucune sculpture ni aucun ornement. Vous voyez, Simon, ici il y a un vêtement très ancien, tissé avec ses fibres végétales, libériennes, qui permettent de lutter aussi bien contre le froid que contre la chaleur. C'est ma dernière acquisition, un vêtement à l'intelligence naturelle. Je suis seul à le toucher, ne m'en veuillez pas. Je comprends, murmure Simon. Devant lui, les doigts fins d'Akiko déplient une sorte de cape avec des ouvertures pour les bras. La couleur de la fibre de bananier est rehaussée par des broderies bleu indigo. Ce vêtement a quelque chose d'impressionnant. Pourtant, il est très simple, mais c'est le respect dont Akiko l'entoure qui le rend solennel. La voix d'Akiko a pris une autre tonalité. Elle parle bas, sa vibration est bordée, arrondie et comme retenue par de la pierre. Simon imagine une grotte, une crypte. C'est un vêtement sans doute porté seulement pour des cérémonies. Il était tissé et brodé par les femmes. Mais ce sont seulement les hommes qui les portaient. Il a dû demander des mois de travail, peut-être plus. Simon imagine leur lent travail des femmes, l'atmosphère qui entourait ce travail. J'y ai mis tout ce que j'avais économisé. Puis, elle ajoute, je ne le regrette pas. Simon contemple cette pièce rare. Dans son cabinet aussi, des gens ont mis des mois, des années à tisser longuement une histoire respirable dans laquelle loger leur vie. Parfois, quelques points de broderie, quand le vêtement était prêt à être porté à rejoindre le monde. Et lui, il y a mis aussi tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était. A-t-il entendu vraiment chaque souffle, chaque silence? Il a essayé, de tout son être, oui. Il soupire comme pour lui-même. Moi non plus, je ne regrette pas. Moi non plus, je ne regrette pas. La cape qui ne couvre plus aucun corps aujourd'hui, ces broderies patientes et les corps sauvages de l'enfance. Le plus grand des bonheurs. Où ? Il a fermé les yeux. La nuit du feu sur la plage. Il aurait fallu que l'obscurité soit enveloppée du travail lent et patient des femmes. Cette nuit-là, des femmes ont manqué. Les doigts des femmes, invisibles, qui aurait tissé et brodé la suite de l'histoire. Tout aurait été différent. Les jeunes cœurs et les désirs de deux garçons entremêlés aux doigts des femmes. Simon songe. Le corps de son ami pour toujours lié au feu et à l'eau, où qu'il soit. Cette cape est une protection vivante, murmure-t-il. Celui qui la portait devait se sentir à l'abri de tout, comme avant tout langage. Akiko ne dit rien. Elle lui tend cérémonieusement la cape. Levez-vous, Simon. Elle se hausse sur la pointe des pieds et lui passe la cape sur les épaules. Il fait taire en lui la voix de l'ironie, celle qui connaît trop bien, si caustique face à toute croyance. La gravité d'Akiko mérite son respect. Il chasse tout, ferme les yeux, ne veut que sentir le poids du vêtement sur ses épaules, être digne de ça. Et alors il voit les habits de son père en poussière entre ses mains et remontant encore plus loin. Il voit sa mère les aérant en prenant soin, un soin amoureux. Sa mère toujours amoureuse de son père même s'il était mort depuis longtemps. Dans ses mains à elle, le désir encore vivant pour le corps perdu. Et lui, enfant, voyant cela, sentant cela, et le refusant de toutes ses jeunes forces. Les larmes qu'il n'a pas versées pour les morts, c'est maintenant qu'il les sent. Quand Akiko lui effleure l'épaule, il ne sait plus combien de temps s'est écoulé. Le chagrin ne tue pas. Il est toujours debout.
Et le voilà à l'arrière de la voiture conduite prudemment par Akiko. Face à eux, une cascade. L'eau jaillit avec fougue, elle dégringole des rochers, rebondit sur des droites corniches, s'élance à nouveau. Simon ne voit plus que ce jaillissement et la couleur verte. Tout semble végétal dans les arbres, les plantes s'entrelacent dans une abondance luxuriante. Pourtant, les rochers sont bien là, couverts de mousse. C'est un tableau à couper le souffle. Il reste immobile à le contempler. Tezuke a posé sa main sur son bras. Le bruit de la cascade empêche toute conversation. Simon le suit sans même se rendre compte du sourire ravi qui vient de lui redonner un air d'enfant. Il a 8 ans. Il est dans un livre d'aventure. Il va se baigner dans une cascade. Il marche avec Tezuke sur un sentier étroit qui grimpe entre des plantes hautes dont les feuilles sont larges et charnues. L'ombre est bienfaisante et le bruit de l'eau qui coule ajoute à l'impression de fraîcheur. Soudain, ils parviennent à une nouvelle esplanade sur un plateau, inattendu dans la luxuriance de la végétation. 2 grands préaux en bois rectangulaires se partagent l'espace et une haute et dense haie de bambou les sépare. Simon entend la voix d'Akiko derrière lui. « C'est ici que les hommes et les femmes se séparent, mon cher Simon. C'est la coutume. Vous allez suivre Tezuke et moi je vais profiter de mon bain toute seule, puisqu'aujourd'hui il n'y a personne. » C'est un endroit merveilleux, Akiko. Quel cadeau. Akiko sourit. Attendez de sentir l'eau bienfaisante et vous verrez, rien ne résiste à un bain ici. Les bassins ont été construits il y a très longtemps quand on a découvert les bienfaits de ces sources chaudes. Chacun de nous sur l'île y vient 2 ou 3 fois par an, pas plus. C'est toujours à une occasion particulière. Nous venons ici après chaque nuit passée au jardin et moi je viens avant chaque départ vers de nouvelles trouvailles. Je me lave de tout pour retrouver un regard neuf, une intuition neuve pour me guider pour le voyage. Simon écoute les paroles d'Akiko, sa voix est derrière les paroles, l'eau de la cascade. Il aimerait tant aussi retrouver le regard neuf. Quand il rejoint Tezuke, le vieil homme est déjà en train de descendre les quelques marches de pierre qui mènent à l'eau. Il descend lentement en s'étirant à chaque marche, puis en ployant les genoux. Simon admire sa souplesse. À la dernière marche, Tezuke plie soigneusement le tissu de coton qui lui saignait les hanches, le dépose sur le bord du bassin, puis il entre dans l'eau nue. Simon suit le même rituel. D'abord, il se dévêt dans la petite cabane où il voit les vêtements de Tezuke posés sur un tabouret en bois. Il abandonne le maillot de bain. sentant combien il serait incongru ici. Attache autour de sa taille la grande pièce de tissu, puis comme Desuke, descend lentement les marches, s'étire, ploie les genoux, enfin défait le tissu et entre dans l'eau. Il ne s'attendait pas à une chaleur aussi brûlante. Il a d'abord du mal à la supporter. Desuke, attentif, lui montre des jarres posées sur le bord du bassin. Elles sont pleines d'eau fraîche. Le vieil homme lève la main vers le bruit de la cascade et Simon comprend que c'est l'eau de la cascade qui doit atténuer le brûlant de la source chaude. Il faut verser l'eau sur le crâne et cela refroidit l'ensemble du corps. Tout ce dont on a besoin est miraculeusement là. Les deux eaux se mêlent. Peu à peu, son corps s'habitue. Alors il commence à regarder mieux autour de lui. Desuke semble suivre un rituel de lente coulée sous l'eau, puis de pause à l'air en faisant la planche. Simon se demande comment il supporte la chaleur, tête sous l'eau. Il ne s'y risque pas, décide d'explorer le bassin en faisant le tour, lentement, ses jambes déplaçant l'eau de plus en plus souplement. Le bassin est vaste. Peu à peu, il oublie Desuke.
Akiko l'attend devant une tasse de thé dans la grande pièce de vie. Il est décidé à se laisser aller à la journée qui vient, guidé par elle vers une autre île. Il veut que ses pensées soient libres de vagabonder. Le mener où ? Ils arrivent dans le village de Nara. Ici, les rues sont étroites et les maisons semblent très anciennes. Celle de Nara ne se distingue pas des autres. Elle ne paie pas de mine quand on la voit de la rue. Mais dès qu'on passe le préau, on se retrouve dans une grande pièce ouverte sur une véranda et le jardin. C'est l'atelier. Il occupe la place centrale. Là, les tissus, les fils, les métiers à tisser. Une foison de couleurs délicates suspendue à de hautes perches. Tout est à contempler. On mesure alors ce que la maison a d'exceptionnel. Il faut en avoir franchi le seuil pour découvrir ce royaume, et Simon comprend la chance qu'il a de pouvoir le faire. Des jeunes filles viennent chez Nara en stage pour apprendre le tissage et la teinture traditionnelle. Sa renommée dans le monde des créateurs est grande. Il y a trois affairées, chacune à leur tâche. Elles saluent sobrement d'un mouvement du buste et poursuivent leur travail. Avant d'apprendre à tisser, explique Akiko, elles apprennent à filer le fil des bananiers. Il écoute les étapes imposées, leur utilité. Il découvre qu'il y a trois sortes de bananiers. Ceux pour les fruits, ceux pour les racines qui se mangent aussi, et ceux pour le fil. Il faut aller chercher les troncs vers les mangroves. Les bananiers résistent au typhon et forment une bonne protection. Ils sont précieux ici. Il faut trouver ceux qui seront les meilleurs, ne rien gâcher, en détacher les fibres comme si on les épluchait, puis diviser les lanières obtenues jusqu'à faire apparaître de grands fils. C'est un travail qui demande aux doigts d'être habiles et résistants. Enfin, il faut attacher les fils les uns aux autres pour pouvoir les tisser. Nara a tout appris de sa mère qui le tenait aussi de sa mère. Elle sait comment rouloter les extrémités,
les unes aux autres, de façon à ne faire aucun nœud. L'une des jeunes filles est assise sur le sol et elle fait tourner une roue de bois sur laquelle le fil s'enroule pour faire une bobine. Simon écoute, regarde. Il est au cœur d'une tradition vivante. Ici, la mémoire passe par les doigts, les poignets, les mouvements des bras et ceux des jambes sur le métier tissé. C'est tout au corps que se transmet une connaissance ancienne.
Quand la fille de leur hôtesse les rejoint, il est frappé par quelque chose de grave chez la jeune femme et par la force qui émane d'elle. Il sait qu'elle va dans la forêt couper les plantes dont sa mère a besoin pour ses teintures et il a mieux compris ce que cela signifiait en voyant la forêt dense qui les entoure. Ici, la végétation est tropicale et la faune peut aussi être dangereuse. Il y a des serpents et les fameux chats sauvages. Mais ils ne sortent que la nuit pour chasser, le rassura Kiko. C'est une fille des contes anciens. Elle porte au côté une sorte de lame tranchante, courbe, et Simon pense à la harpée de Persée allant tuer Méduse. Namiko pose sa harpée. C'est elle qui sert maintenant le thé avec simplicité. Sa grâce est dans une simplicité car elle n'a ni les attaches fines ni le sourire délicat. Elle est robuste et son visage reste comme tourné vers l'intérieur d'elle-même. Elle aide sa mère sans dire un mot. Soudain, pourtant, son rire se mêle à celui des deux femmes, brusque et clair. Tout son visage alors s'épanouit et Simon revoit en un instant le visage de la petite fille de la taverne. Il essaie de se rappeler son prénom, Umi ou Ussi. Seules les voyelles lui restent en mémoire, le U et le I. Quelque chose comme un souffle qui s'achève finement. Un oiseau. Histoire d'amour et d'amitié, de désir et de rencontre, laissez-vous emporter. Bonne lecture.
Ce texte a été lu par Armel et Jean. À la technique, Jean. La musique est extraite des Nocturnes de Claude Debussy. La semaine prochaine, nous ferons une troisième lecture de La patience des traces de Jade Bellhammer.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G.